Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Salut tout le monde, moi c'est Annie, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondatrice de Soparks. Et aujourd'hui, je mets à l'honneur la parentalité. Parents, c'est le plus beau métier du monde, alors pourquoi ne pas la raconter? Et je vous propose d'entendre le témoignage d'Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Annie.
Donc Isabelle, Jérémy, de ton nom, tu es aide-soignante. Depuis plus de 23 ans.
Exactement.
En reconversion vers un nouveau métier. Tu veux nous en parler un peu? Tu peux bien te présenter?
Oui, je veux bien.
Allez.
Alors, effectivement, je suis en reconversion d'un métier qui est la naturopathie. Parce que pour moi, tout ça, c'est lié, en fait. Le fait d'être parent, ça incombe beaucoup de choses, beaucoup de formations. Et de partir de la base, ça a été mon essence. Et c'est ce qui m'a poussée aujourd'hui et qui a fait que je suis arrivée jusqu'à là devant toi.
En plus d'être naturopathe, tu es une maman engagée. Je crois savoir que tu es présidente de la FCPE.
Oui.
Mais pas seulement. Tu fais aussi partie d'un mouvement engagé pour ta fille. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu qui tu es? Quelle maman j'ai en face de moi aujourd'hui? Quelle maman on va entendre pendant plus d'une heure?
Alors, je suis une maman très engagée, oui. Parce que j'ai pas connu ce que c'était que d'avoir des parents à l'écoute de tout et de rien, j'ai envie de dire. Donc le jour où j'ai décidé dans ma vie d'être maman, je me suis toujours dit que je m'impliquerais dans la vie de mes enfants. Et s'impliquer dans la vie de ses enfants, ça veut dire s'impliquer dans leur société à eux, quand ils entrent dans la société. Et c'est l'école. La première société des enfants, c'est l'école maternelle, l'école primaire, le collège. Et au milieu de tout ça, je me suis dit, mais je suis une maman, oui, mais je suis aussi une femme. Et je ne voulais pas perdre de vue ceci. Donc, en m'épanouissant, j'ai accompagné mes enfants au mieux que j'ai pu. Parce que être parent, comme tu l'as dit, c'est un métier, mais c'est surtout le métier le plus difficile au monde. Et mes enfants m'ont beaucoup éduquée et ils m'ont aidée à épanouir. Donc, j'ai été présente avec eux pour tous les moments de la vie, que ce soit dans les activités extrascolaires, parce que ça aussi ça fait partie des enfants, on peut pas les cantonner qu'à un seul poste. Et après, de par ma profession, puisque comme tu l'as dit, j'ai été 23 ans aide-soignante et je le suis toujours, j'ai travaillé 15 ans en pédiatrie. Et là, en vrai, j'ai ouvert les yeux de par l'éducation que j'avais eue et après la vie que j'ai connue. Et je me suis dit, en fait, nos enfants, on ne leur dit pas assez la vérité. Ils ne sont pas assez dans la réalité du monde, ce qui fait que eux, quand ils sont dedans, c'est difficile. Ils ne savent pas sur quel pied danser, malgré la bonne ou la mauvaise éducation qu'ils auraient pu recevoir.
Écoute, je crois que c'est le moment de se servir une petite tasse de thé. T'es bien installée.
Oui.
Parce que je pense que les échanges vont être très intéressants. À chaque épisode, je recevrai un invité qui racontera sa parentalité, ou en tout cas, comment il l'a vécu, lui, en tant qu'enfant. Et pour ce faire, j'aimerais bien que tu nous dises quel enfant tu étais. Isabelle, petite.
Alors, Isabelle, petite, déjà, elle est issue d'un foyer où je ne vivais pas avec mon père, je vivais avec ma mère. Donc, mes parents étaient séparés. J'ai jamais connu mes parents ensemble. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un père et une mère dans une même maison. Du coup, quand c'est comme ça, on est un peu effacé au début parce qu'on ne sait pas quelle place prendre. Après, j'ai une scolarité qui s'est plus ou moins bien passé, on va dire. J'étais pas spécialement une enfant compliquée. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé les responsabilités à l'école. C'est-à-dire, j'ai jamais connu ce que c'était que d'avoir une mère qui venait à des réunions de parents d'élèves, des choses comme ça. J'ai jamais connu qu'on vienne me chercher à l'école ou qu'on m'emmène à l'école. On a été très autonome, très vite tout seul avec mon frère.
Ah, tu as un frère?
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire comment il s'appelle, quel âge il a, qui est né?
Alors, on est une grande famille. Du coup, du côté de mon père, on est 7.
Ok.
Et du côté de ma mère, on est 4.
D'accord. Voilà. Et du coup, tu te situes où dans ta fratrie?
Alors, dans ma fratrie, je vais plutôt parler de celle du côté de mon père, parce que je suis la plus grande.
D'accord.
Et je suis l'aînée, quoi. Donc, on va dire, j'ai les responsabilités de l'aînée. je dirais pas de montrer l'exemple, mais d'avoir toujours un œil sur les autres.
Et à quel âge ont tes petits frères et sœurs du côté de ton père, du coup ?
Alors aujourd'hui, j'ai un frère qui a... Moi, j'ai 43 ans, donc lui, il doit être dans les 42.
Ouais.
J'en ai deux autres qui sont dans la trentaine.
D'accord.
Un autre qui a 19 ans. J'ai une petite sœur qui a 18 ans. Et j'ai une petite dernière qui est née il y a quelques mois.
D'accord,
donc,
magnifique.
J'ai un père très productif.
du côté de ta mère, ta fratrie, du coup, elle se compose comment ?
On est quatre, j'ai deux grandes sœurs. Ensuite, il y a moi et mon petit frère.
D'accord. Et donc, comment t'as, toi, étant petite, évolué ? Tu disais que tu étais un peu effacée. Et le lien avec tes frères et sœurs, comment ça se passait au quotidien ?
Alors, on était proches. Quand on était petits, on a toujours été proches, même si on était du coup, entre guillemets, recomposés, hein, puisque mes grandes sœurs sont issues d'un autre papa.
D'accord.
Mais on a toujours eu ce lien. Entre nous, on a toujours été proches, mes frères et moi on a été rapprochés, donc du coup au niveau de l'âge on avait des amis toujours un peu en commun, on jouait, mais on évolue dans des mondes différents. On n'a pas tous les mêmes comportements, on fait pas tous les mêmes choix, donc ouais, on peut dire ça. J'ai une belle famille, mais c'est nos différences qui font que ma famille est belle.
D'accord, c'est très beau ce que tu viens de dire. C'est pas parce qu'il y a des différences ou des points de divergence que notre famille n'est pas ce qu'elle est et qu'elle n'est pas belle pour autant. Elle est belle de ses différences. Tu disais que tu n'as pas connu tes parents en couple, que ce n'est pas un modèle familial dans lequel toi tu as grandi. Pour autant, ta mère et ton père, ils sont là. Ils sont encore vivants tous les deux.
Oui.
D'accord. Et quel est le lien enfant que tu avais avec ta maman et avec ton papa ? Donc, malgré le fait qu'on ait entendu hein, qu'ils n'étaient pas forcément présents dans les accompagnements à la scolarité, mais est-ce que tu as des souvenirs de liens ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ?
Oui, j'en ai beaucoup. Alors, mon père était une personne avec qui on pouvait beaucoup parler. Donc, c'était très, très bien, du coup. Ma mère, par contre, c'était une éducation, je veux dire, un peu plus à l'antillaise où on pouvait parler, mais on n'était pas forcément écoutés.
Ouais, j'allais te dire, c'est quoi une éducation à l'antillaise ? Explique-nous, parce que je suis sûre qu'on est plusieurs à pas...
Voilà, non, on pouvait parler, mais on n'était pas forcément écoutés. Et puis après, il y a aussi ce souci, je pense, d'être... Quand on est mère seule, entre guillemets, à élever deux enfants, on fait face à d'autres choses, donc... La priorité, c'est de s'occuper bien de leurs enfants, de ses enfants. Donc, leur donner à manger, les vêtir, leur donner un toit. Et je pense qu'à l'époque, le reste était peut-être superficiel.
D'accord. Voilà. Mais du coup, ce n'est pas forcément une éducation à l'antillaise. C'est un style ou un modèle d'éducation. Mais quand tu dis éducation à l'antillaise, ça laisserait sous-entendre qu'aux Antilles, c'est le format le plus courant.
Ben, quand on est enfant, chez nous, il y a une hiérarchie quand même.
D'accord, ouais. Ok.
Donc, nos parents, on est censé les écouter et pas poser de questions, en fait.
Ok, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Et du coup, quel rapport tu avais avec les autres enfants quand tu étais petite ? Les enfants qui t'entouraient, les cousins, les cousines, les copains, les copines. Est-ce que tu étais une enfant sociable ?
Ouais, j'étais très sociable. Je suis trop sociable, moi.
Trop.
Trop.
C'est possible d'être trop sociable.
Ouais, non, j'ai jamais été une enfant timide. J'ai toujours aimé aller vers les autres. Et beaucoup, j'ai toujours aimé aller vers la différence depuis okay. jeune.
Donc j'ai c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi ?
Ouais, j'ai jamais aimé de voir des gens à part, en fait. J'ai toujours trouvé que l'osmose, c'était bien. Après, voilà, je suis issue d'une grande famille, on fait toujours des fêtes. Je sais pas, la convivialité, le fait d'être à plusieurs, je trouve que c'est quelque chose d'apaisant.
D'accord. Et Isabelle, l'adolescente, elle était comment, elle ?
Ah, l'adolescente, c'était compliqué quand même.
Tu nous racontes ?
Ben, quand j'étais adolescente, j'ai dû m'occuper de moi, du coup. J'aimais beaucoup les responsabilités, parce que j'avais baigné dedans, je pense, et aussi parce que c'était le moyen pour moi d'avoir des informations. Très jeune, en fait, j'ai compris que... Si on voulait progresser et savoir des choses, bah, il fallait être un petit peu toujours le niveau au-dessus. Donc j'ai toujours été déléguée de classe, j'ai été représentante de mon lycée, représentante académique. C'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Ça me permettait d'en savoir plus.
Ok, on peut dire que tu étais une adolescente engagée ?
Oui. quand j'étais au lycée, oui.
Et est-ce que tu t'es projetée en tant qu'adulte dans ton enfance? Est-ce que tu as un souvenir de... Tu sais, des fois, on est là, assise à refaire le monde avec ses copines. Ouais, quand moi, j'aurais 20 ans. Tu te disais quoi, toi? Comment tu te voyais adulte? Est-ce que tu te voyais adulte?
Ben, en fait, je crois que je ne me voyais pas adulte. Je me voyais grandir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quand j'aurai 18 ans. Parce qu'on se dit, ouais, ouais, là, ce sera la liberté. Donc, oui, je pensais beaucoup quand j'aurai 18 ans, quand je serai majeure, qu'est-ce que je ferai. Mais ce n'est pas quelque chose... C'était pas une idée fixe, en fait. Je prenais les choses comme elles venaient. Je savais surtout ce que je voulais pas.
Alors,
en fait,
qu'est-ce que tu voulais pas?
Ben, déjà, j'avais pas envie d'évoluer dans une société ou dans des environnements qui me correspondaient pas. Donc, je faisais beaucoup de choix et j'essayais d'être sélective, mais ça se faisait naturellement. Mmh. Je faisais toujours en sorte d'être bien là où j'étais. Si j'étais pas bien, ben, je restais pas.
Ok. Et... est-ce que tu t'es projeté en tant que parent? Est-ce qu'enfant ou jeune, tu te projetais en te disant, bah, moi, quand je serai maman, ou c'est quelque chose, en fait, qui s'est fait sur le tas et dont tu n'as pas réfléchi, mais est-ce que toi, tu t'es projeté en te disant, bah, un jour, je serai maman ou pas?
Ouais. Ouais, beaucoup.
Et tu t'imaginais comment? Qu'est-ce que tu te disais?
Je me disais que j'avais envie d'être une mère ours, lionne, parfois serpent, parce qu'on est obligé d'avoir toutes les facettes. Et j'avais envie d'être une mère engagée dans ce que je faisais, en fait.
Ok. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire ce que tu mets derrière ours, lionne et serpent?
Alors, une lionne, c'est parce que je serai toujours là pour protéger mes enfants.
Okay.
Toujours. Et ours, pour moi, c'est parce que souvent, un ours, il est mal léché, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, je ne le suis pas du tout. Donc, j'aime laisser que l'apparence est trompeuse parce que je suis très chaleureuse et je sais faire la part des choses.
Ok, donc toi, tu as l'impression qu'on te voit un peu comme un ours?
Ouais, souvent, on me l'a déjà dit.
Okay.
C'est pour ça que je le reprends.
Ouais. Ok, d'accord. Mm. Et qu'est-ce qu'on t'a avancé? Enfin, les gens qui te disent ça, qu'est-ce qui t'avance comme argument?
Non, ils me disent, ouais, mais t'as l'air... elle me dit, oui, mais t'as l'air sauvage.
Ouais, okay.
On ne peut pas t'aborder comme ça. Or que, en fait, non, c'est pas que je suis sauvage, c'est que je suis observatrice. J'ai appris à observer la vie avant de réagir. Parce que vraiment, ça, c'est tout le temps, quand on rentre quelque part et qu'on ne sait pas et qu'on se mélange, malheureusement, on fait des mauvaises rencontres. Et j'en ai fait les frais. Et du coup, bah, à force de prendre des claques, on change.
Ok. Et serpent?
Ah, il faut avoir plein de facettes. Quand on est maman, il faut être filoute. Hein. Quand on est maman, quand on est femme, il faut être filoute. Donc, toujours se faufiler à travers les petits espaces.
Changer de peau.
Ah, exactement.
Se renouveler.
Bah, c'est ça, en fait. Hein. Être parente, tu mues perpétuellement. Mmh. On est éduqué par nos enfants. Donc, quel que soit leur âge, ils nous forment.
Ouais, quelle belle philosophie. Est-ce que la façon dont tu viens de décrire le parent que tu imaginais, c'est ton parent idéal? Est-ce que tu avais un modèle de parent idéal?
En vrai, j'avais surtout envie d'être une mère aimante. Et pour moi, je ne vais pas dire la meilleure des mères ou quoi que ce soit, c'était important que dans mon foyer, on sente l'amour.
Mmh.
Voilà. Que mes enfants n'aient pas peur de discuter, d'échanger, quoi. Que c'était important qu'il n'y ait pas de cassures, de choses qui brisent. Je voulais vraiment qu'on soit liés. Et je ne dirais pas que c'est... je ne vais pas dire que ce n'est pas idéal, mais en tout cas, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Je me suis dit, ouais, je voulais absolument avoir un foyer aimant avec des enfants qui m'aiment et puis moi qui... les aime aussi, quoi.
Mmh, ok.
Parce que ça existe. Hein.
Bien sûr.
Des parents
sûr.
Qui...
Là, on est sur ta vision. On n'en est même pas encore à l'étape du parent que tu es aujourd'hui. Vraiment, l'idée, c'est que je comprenne qui tu es, qui est Isabelle, quels étaient tes rêves et qu'on puisse cheminer ensemble tout au long de l'échange sur comment ça se passe aujourd'hui, en fait, entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on devient. J'ai envie de te dire que rapidement, je pense qu'on peut arriver à l'étape où c'est l'heure de choisir sa moitié. Est-ce que tu as choisi ton homme ou pas? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu. Est-ce que c'était un choix?
Oui, c'était mon choix. C'était mon choix. Ça a été très long, parce que mon mari m'a tournée autour pendant longtemps. Et je voulais être sûre que ce soit le bon. Donc, on a eu, nous, la chance d'être amis avant d'être mariés pendant des années. Du coup, ça a facilité le fait de l'engagement. Puisque mon mari et moi, on partageait beaucoup de valeurs similaires, en tout cas, au point de vue de la famille. Et je ne concevais pas de fonder un foyer sans certaines valeurs sûres. C'est-à-dire une personne qui avait au moins la même idée dans les valeurs et dans la fondation de la famille. Parce qu'on est à l'abri de rien. Mais c'était important pour moi de me dire, voilà, lui, la famille, pour lui, c'est important. Même si demain, on est séparés, il sera dans cette optique-là et je serai dans cette optique-là.
C'est intéressant ce que tu dis parce que rares sont les personnes qui, dès le départ, se disent... si un jour on se sépare, il sera comme ça avec mes enfants. C'est pas anodin. C'est-à-dire que pour toi, et tu l'as dit en quelque sorte, l'amour, elle est importante, mais on peut dire que tu as été chercher un papa qui, pour toi en tout cas, semble être celui qui sera présent même en cas de séparation.
Oui.
Présent pour toi, présent pour les enfants.
Présent pour les enfants aussi. Étant déjà moi issue d'un foyer où les gens n'étaient pas ensemble, c'était pas du tout ce que je voulais, parce que je pars du principe qu'un enfant, ça se fait à deux. Donc c'est pour qu'on puisse continuer à l'élever tout au long de sa vie à deux. Après, les chemins de vie font que on peut se séparer, mais c'est pas ce qui fait qu'on est un mauvais parent, en tout cas.
Isabelle, on s'est rencontrés à travers les réseaux. Comme quoi, les réseaux, c'est virtuel, mais pas que. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit physiquement. Tu ne me connais pas assez, mais je suis un peu une gamine. Là, toutes les personnes qui me connaissent rigolent. Moi, j'ai envie que tu me racontes comment tu passes de cette relation amicale à ça devient mon chéri, ma moitié, mon conjoint, ce que tu veux. Comment ça s'est passé ?
Raconte-nous les détails. Il était très, très persévérant.
C'est-à-dire ?
Non, il était persévérant. Déjà, la première fois que j'ai rencontré, c'était écrit sur son front, en gros, je veux être avec toi. Mais moi, j'étais un peu, à cette époque-là, j'étais une adolescente, J'étais une jeune femme. Je l'ai rencontrée, j'avais plus de 20 ans.
OK.
Et ce que j'aimais à l'époque, c'était danser. Donc, je dansais beaucoup, je sortais beaucoup. VSD, c'était moi. Vendredi, samedi, dimanche, j'avais une
VSD,
soirée.
VSD carrément. Okay.
Ah ouais, j'avais une soirée, j'aimais danser, j'ambiançais quand j'allais en soirée, tout ça. Et lorsque mon mari est venu vers moi, je me suis juste dit que ce qu'il voulait, c'est la personne qui est toujours sur scène, qui danse, voilà. Donc il m'a pas convaincue. Et je lui ai dit, écoute, non, il voulait mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, oui, mais pourquoi faire ? Il me dit, oui, pour qu'on soit amis. Il dit, non, mais j'ai déjà des amis, j'ai pas besoin d'amis. Et de là, il m'a dit, non, on va discuter, on échangera. Et j'ai cédé, je lui ai donné mon numéro et on a discuté pendant des années. Il a eu des petites copines, j'ai eu des petits copains. Et puis un jour, on s'est posé, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas eu au téléphone, on s'est reparlé. Et puis de là, de fil en aiguille, en fait, on a commencé à se voir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis les choses se sont faites comme ça.
Tu me vois sourire, mais il n'y a pas longtemps, débat. Donc, y a un jeune qui dit l'amitié entre filles et garçons, elle n'existe pas. Et donc, il y a une des jeunes filles qui lui dit, moi, je suis amie avec un copain à moi depuis des années et des années. Et il lui a dit, c'est pas de l'amitié, c'est de la patience. Et en fait, à travers ton exemple, on entend ça un peu. Donc, vous êtes dit, OK, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes projeté rapidement dans une vie de couple avec des enfants, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu à vous ? Qu'est-ce que vous êtes dit ? Est-ce que vous êtes dit, on vit notre vie, on patiente ? C'était quoi l'idée pour vous ?
Non, pas spécialement. Pas spécialement parce que pour moi, le temps, il n'est pas forcément révélateur quand on sait ce qu'on veut. Il y a des gens, ils vont se rencontrer le premier jour et puis voilà, ils vont tracer leur vie d'un coup. C'était vraiment les valeurs de mon mari qui m'intéressaient. Après, on a eu des enfants très tôt. Quand on était ensemble, on a eu nos enfants tout de suite.
C'était un choix ?
Non, ça s'est fait comme ça.
Ouais, OK, ils sont arrivés.
Ouais, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne regrette pas la manière dont ça s'est fait. J'ai eu ma première fille, j'avais 28 ans. Mon fils, il est arrivé 18 mois après. Donc non, je ne regrette pas. Au contraire... Je pense que c'est aussi nos enfants qui ont fait la famille qu'on est aujourd'hui et les parents qu'on est aujourd'hui.
Ok, avant d'entrer vraiment en détail sur cette partie-là, est-ce que tu serais d'accord de nous dire ton conjoint, c'est quoi son prénom d'ailleurs ?
Il s'appelle Thierry.
Et je suis curieuse. Hein. Du coup, Thierry, quel était le rapport de Thierry avec ses parents au moment où tu l'as raconté ? Est-ce qu'il t'a raconté quel enfant lui il a pu être, le lien qu'il avait avec ses parents ?
Mon mari, en fait, il avait un lien... je vais dire particulier. Déjà, il est issu d'une fratrie de 5.
D'accord.
Ils sont d'une confession religieuse particulière.
C'est laquelle ?
Il est témoin de Jéhovah.
D'accord.
Donc, du coup, tant que j'étais son amie, on va dire que ça ne posait pas de problème.
Ouais, ok.
Mais le jour où sa mère a commencé à comprendre qu'on était plus que des amis, ben, ça a été un petit peu problématique.
Ouais, alors en plus, c'est intéressant que tu abordes cette religion parce qu'il y a plein de préjugés ou de perceptions qui sont fausses. Du coup, toi, tu es de quelle confession ?
Moi, je suis chrétienne.
T'es chrétienne. Et du coup, est-ce que ça a posé problème, la mixité religieuse ? Comment, du coup, vous avez trouvé un terrain d'entente ?
Le premier rendez-vous que j'ai eu avec mon mari, à part la première rencontre qu'on avait fait sur cette soirée, sur cette fameuse péniche, j'avais rendez-vous chez lui.
Okay.
Et le premier film qu'on a visionné ensemble, c'était la Bible. Parce qu'en fait, mon mari et moi, on échangeait beaucoup sur l'argent, puisque je voulais connaître son point de vue sur la chose et tout ça. Et lui et moi, on a toujours été clairs par rapport à ça. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Mais par contre, au niveau de sa famille, sa mère, c'était un petit peu plus compliqué, parce que c'est des gens qui pensent que tu te maries avec des gens qui sont de la même confession que toi. Et Thierry et moi, ça ne nous a jamais gêné en fait, de ne pas être ensemble. Mon mari ne rentre pas dans des églises parce que chez lui, c'est comme ça. Mmh. Moi, je suis une personne qui me suis baptisée très tard. Je me suis baptisée, j'avais 33 ans. Donc,
d'accord.
J'étais déjà maman et enceinte, d'ailleurs, de ma dernière. Donc, non, c'est... Ça n'a jamais été un sujet, en vrai, un sujet de conflit, pas du tout. Ça a toujours été un sujet, nous, en tout cas, qui nous a rapprochés.
Ok, et du coup, vous êtes posé la question de, et si on a des enfants, quel choix pour eux ? Parce que souvent, les parents aussi, c'est ça un peu qui les inquiète dans la mixité, plus que la mixité en soi, c'est quels sont les choix qu'on va faire et quelle va être la religion des enfants ou pas. Et du coup, dans la parentalité, c'est quelque chose qui compte, ça. Surtout dans les couples mixtes. Du coup, est-ce que vous aviez abordé cette question en vous disant, le jour où on aura des enfants, comment on fonctionne ?
Alors, je trouve ça très drôle que tu me poses cette question, mais je vais te répondre avec honnêteté.
Ouais, vas-y.
J'estime que la religion, son rapport avec Dieu, c'est un rapport qui est personnel. Donc moi, je suis chrétienne, je vais à l'église catholique quand j'ai envie d'y aller, sinon je prie chez moi. Mon mari, lui, il va à ses réunions quand il a envie d'y aller. J'ai jamais rien voulu imposer à mes enfants. Seulement le fait de ma croyance, j'ai toujours voulu qu'ils soient baptisés. Ma grande fille, du coup, lorsque ça a été le moment, je ne l'ai pas baptisée bébé. J'ai attendu qu'elle soit un petit peu grande, donc elle a suivi le catéchisme et tout. Elle s'est baptisée. Elle a fait sa première confirmation aussi. Mais mes enfants ont toujours eu leur droit à l'expression. Aujourd'hui, lorsque mon fils a été dans la même configuration que ma fille, il n'a pas été jusqu'au bout. Il faut savoir qu'à l'église, quand on est grand, on te demande ton avis. Donc, il y a 3 scrutins. Il a fait les 2 premiers. Le 3e, il ne l'a pas fait. Il devait avoir 9 ans, je crois, 9 ou 10 ans. Il m'a dit, maman, je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie. Donc, je l'ai écouté. Et ce jour-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ton fils ne sera jamais chrétien catholique. Donc ce jour-là, j'ai su que mon fils prendrait un autre chemin. Mais j'ai laissé les choses se faire. Et un jour, il y a Emeraude à 15 ans aujourd'hui, il y a 4 ans, ma fille vient me voir avec des yeux pétillants. En tant que maman, déjà, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Non, je me suis dit, ça y est, elle va me dire, elle a un mec et tout. Elle avait 12 ans, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Elle avait des yeux pétillants. Et en fait, là, ma fille m'annonce qu'elle veut se convertir à l'islam.
D'accord.
Et du coup, j'étais rassurée, hein, c'était pas le mec. Donc, j'étais déjà bien contente. Et je lui ai dit, ah bon ? Je lui ai dit, ok, d'accord. Mais elle avait peur parce que il y a tellement de choses autour de ça qu'elle s'est dit que j'allais refuser. Mmh. Et en fait, non, j'ai complètement accepté son choix. Je lui ai juste dit que je voulais que tu suives le bon chemin. Donc d'aller voilà, vers des livres, vers l'enseignement en tout cas adapté pour. Et aujourd'hui, bah, mes deux enfants, mes deux ados, ils sont convertis eux à l'islam. Et okay. Donc, chez nous, on a trois religions et ça, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas et ça ne dérange pas mon mari.
Et c'est juste merveilleux ce témoignage et merci d'avoir osé en parler. Souvent, les gens, ils pensent qu'on ne peut pas parler de tout alors que tous les sujets peuvent être abordés à partir du moment où on respecte les choix de l'autre. Merci pour ça. J'ai une autre question, c'est... du coup, dans ce que tu dis, tu as un peu répondu à la question, mais j'aimerais t'entendre le dire. C'est, est-ce que tu peux dire que ta vision et celle de Thierry, elles étaient compatibles dans ce que vous projetiez pour vos futurs enfants?
Je peux dire que oui, mais mon mari, il n'a pas accepté, entre guillemets, je vais dire facilement. Parce que bah, pour lui, c'était où forcément nos enfants auraient choisi l'une ou l'autre des religions. Ils ne seraient pas venus avec quelque chose de différent. Et bah, bon, on échange beaucoup tous les deux. Et je lui ai dit non, en fait, qu'il y a des choix qu'on ne peut pas faire pour nos enfants. Et ce choix-là, en fait, ça leur appartient. Moi, je crois en Dieu, j'ai la foi. Quel que soit ce à quoi on croit dans la vie, je me suis dit, mais en croyant en Dieu, même si je ne l'appelle pas de la même manière que mes enfants ou que mon conjoint, je ne peux pas me permettre de leur dire « Ah ben non, tu ne prendras pas ce chemin-là. » Parce qu'aujourd'hui, ils suivent un chemin où ils sont épanouis, ils sont contents, ils ne font rien dans... Comment dire? Ils ne font rien dans l'inconfort. Mmh. Ils font les choses comme ils le veulent. Et du coup, ils suivent leur propre direction.
Mmh. Est-ce que ce n'est pas un peu ça le but d'être parent? C'est d'accompagner les enfants à faire leur choix et...
Moi, j'estime que quand on est parent, on est un GPS. En fait, pour moi, la parentalité, de 0 à 6 ans, t'es un parent. C'est-à-dire, tu donnes de l'amour, t'affectionnes, tu plantes toutes tes graines. Mais j'estime qu'à partir d'un certain âge, t'es plus parent, t'es un formateur pour ton enfant. Même si mes enfants m'appellent maman, moi, je leur dis tout le temps, je suis là pour vous former, pour vous apprendre ce qu'est la vie et d'être le plus possible objective. Parce que la vie, elle est belle, mais elle est aussi beaucoup cruelle. Donc, il faut leur donner les deux saveurs, le salé et le sucré.
J'adore cette métaphore. Ça y est, on a brassé un peu ton enfance, la rencontre avec Thierry. Justement, cette entrée dans le couple avec cette question de mixité. Aujourd'hui, tu as un bon rapport avec ta belle-mère?
Oui, on s'entend bien.
Ouais.
Bah, quand donc, je me suis mariée, le lendemain, je vais taper dans le dos. Ouais. Ça y est, il est à moi maintenant.
Ça y est. Eh bien, on y est. On est à la maternité. L'arrivée de ton premier bout de chou, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu veux nous parler de cette grossesse? Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu dans comment tu as vécu ta grossesse jusqu'à l'arrivée à la maternité?
Alors, j'ai passé une grossesse... Je vais être honnête, je peux pas t'en parler et te cacher ça. J'aime pas les secrets, donc avec ma famille, je suis au clair avec ça. Quand j'ai connu mon conjoint,
en fait, excuse-moi,
j'étais enceinte. Et du coup, ma première fille, c'est pas sa fille biologique.
D'accord.
Et quand elle est née, c'est lui qui était là. Et à la naissance de ma fille, ben en fait, j'étais très heureuse parce que ben elle était là, c'était... Je trouve que être maman, c'est un sentiment indescriptible. Je peux pas te dire, ouais, c'était merveilleux, j'ai kiffé. En vrai, c'est un sentiment qui est propre à chacune, mais il est indescriptible. Vraiment, on peut pas dire, c'est comme si... c'est comme... Enfin, moi, j'y arrive pas.
Ouais, t'arrives pas à mettre de mots.
Non, j'arrive pas à mettre de mots parce que c'est trop splendide, en fait. C'est comme si les portes du paradis étaient ouvertes devant moi. Le rêve que... Enfin, t'avais envie d'être milliardaire, t'avais envie d'être... Quand ma fille, elle est sortie, mais j'étais la plus heureuse du monde, quoi. J'étais svelte, vraiment, j'étais soulagée, j'étais contente. Et enfin, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir avoir ma famille.
Ouais, et du coup, Thierry, il a été là pendant toute la grossesse, pendant les 9 mois de la grossesse?
Oui, il a été là tout le temps, mais en fait... on était amis, on a toujours été amis. Et quand j'étais enceinte, du coup, j'avais peur, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me mettre avec mon mari, parce que j'ai cru qu'il voulait que lui, en tout cas, pensait que je cherchais un père pour cet enfant.
D'accord.
Or que, bah, elle en avait un, sauf que lui, bah, il n'était pas prêt, mais que moi, aujourd'hui, en tout cas, j'avais fait le choix de garder mon enfant. Et même si lui, il n'était pas prêt, bah, ça le regardait lui. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. Quand j'étais enceinte, mon mari a eu beaucoup de gestes, très paternels envers moi, envers ce bébé qui était dans mon ventre. Et du coup, à la naissance de ma fille, après, là, j'ai décidé d'être avec lui.
Ah, ok. Donc, en fait, tu as d'abord eu ta fille et ensuite, tu es entrée en couple avec Thierry. Comme si le fait d'avoir accouché... elle s'appelle comment, ta fille, d'ailleurs?
Ma fille, elle s'appelle Émeraude.
Émeraude. Comme si la naissance d'Émeraude, c'était aussi le commencement du fait de t'autoriser à rentrer en couple réellement avec Thierry sans que... Il a l'impression que tu cherches un père. C'est quoi le déclic? Est-ce que tu t'étais dit, j'attends d'abord d'accoucher avant de mettre en couple avec Thierry? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement, en fait?
Non, ça s'est fait naturellement. Déjà, j'étais enceinte. Franchement, il avait un très bon comportement. Mmh. Il était très respectueux. Il ne m'a jamais brusquée. J'ai toujours su, en fait, qu'il voulait être avec moi. Mais... quand on arrive et qu'on est déjà maman dans une relation, c'est quand même différent.
Mmh.
Et je voulais que lui, en tout cas, il soit sûr de ce qu'il voulait. Parce qu'après, pour moi, il n'y avait pas de non-retour. Déjà, que j'ai jamais souhaité avoir un enfant et me séparer de son père, mais j'ai toujours souhaité être enceinte. Et du coup, quand j'ai été enceinte, il était hors de question pour moi d'arrêter cette grossesse. Mmh. J'avais tout. J'avais un travail, j'avais ma maison, j'avais mon permis de conduire. J'avais pas de raison, en fait, de me dire que j'allais pas lui donner vie. Mais c'est surtout que je l'avais tellement demandé que je me voyais mal dans la relation que j'ai avec Dieu, de me dire je l'enlève parce que j'ai un père en face qui a pas su être assez courageux, j'ai envie de dire.
Mmh.
Et quand Thierry il est venu, les choses se sont faites franchement simplement. Il s'est jamais montré le papa, sauf du coup le jour de la maternité, puisque il était là, je l'ai appelé ce jour-là, je devais aller chez ses parents et j'ai pas pu. Je lui ai dit écoute, je vais accoucher et tout. Il m'a dit ah bon? En plus, j'étais dégoûtée ce jour-là parce que ses parents faisaient un bête de barbecue et moi j'étais trop pressée d'aller au barbecue. Et je suis là, je marche et pouf! J'ai dit ah!
T'as perdu les os?
Non, en fait, j'ai eu le bouchon muqueux qui est parti.
Ok. Ça y est, c'était l'heure.
Je sais pas, la veille, j'étais à la maternité, elle m'a dit, mais non, vous n'allez pas accoucher maintenant et tout. Donc moi, le matin, je fais juste ma petite marche, c'était mon moment avec ma fille. Et je lui dis, vas-y, écoute, je vais à la maternité et puis je te rejoins après. J'y allais par acquis de conscience. Parce qu'il faut savoir que, étant soignante, quand on a un doute physiquement, vaut mieux perdre une heure, deux heures à aller chez un médecin et qu'on nous dise qu'il n'y a rien, plutôt que de ne pas y aller. Ça, c'est mon conseil à toutes les femmes enceintes. Quand on a un doute, alors oui, le corps médical, parfois, n'est pas super accueillant. Il nous dit, vous êtes venue pour rien, nanana, mais vaut mieux venir pour rien que de s'en vouloir toute une vie.
Ouais.
Et donc, moi, je suis partie, ma valise, elle était prête depuis déjà mes 4 mois de grossesse. Je suis partie sans valise. Moi, pour moi, j'allais juste comme ça, on va me dire, il n'y a rien, et puis je vais aller à mon petit barbecue. Non, vous restez, madame. Donc voilà, donc après, je l'ai appelé, il est venu.
Du coup, Thierry aussi, il a loupé le barbecue, donc pas de jaloux.
Ouais, on était deux.
Donc, ça y est, elle est là, son premier cri. Les choses se passent? Est-ce qu'elles se font de façon innée? L'accueil, les premiers soins d'Émeraude, est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que...
Alors moi, j'avais déjà connu les bébés avant, parce que je suis issue d'une famille où beaucoup de naissances. Mais oui, le lien avec ma fille, en fait, c'était inné. Déjà, je voulais l'allaiter. Et en fait, Émeraude, quand elle est née, elle a eu un geste qui m'a transcendée et qui a fait que les choses ont été très faciles. Quand elle est née, quand on me l'a apportée, puisque j'ai eu ma fille par césarienne, c'était pressé. Du coup, on me l'a présentée avant de l'emmener faire ses premiers soins. Je n'ai pas pu la porter. Et quand on me l'a présentée, en fait, Émeraude, elle m'a caressée avec son petit doigt sur le visage. Et en fait, là, ça m'a fait... comme dans un film, quand on met le coup de baguette magique comme ça, et on a tout l'univers qui change. Et Émeraude a changé mon univers.
Tu t'es sentie responsable
Je me suis sentie...
T'avais une mission?
Ouais. Oui, je devais être là pour elle, en tout cas.
Les premières années de la... Enfin, tu m'as dit, je crois, que ton fils est né 18 mois après.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 18 mois? Qui pose les règles? Comment les choses se mettent en place dans la famille, le retour à la maison?
Ben, franchement, quand on est rentré, les choses, elles se sont faites simplement. Thierry et moi, on n'habitait pas encore 100% ensemble, puisqu'il était encore... Il vivait encore chez ses parents. Il était là très régulièrement, souvent. Et ça s'est fait naturellement. En fait, je ne suis pas dans les plans. J'écoutais beaucoup mon enfant. J'étais à son écoute. Et puis en vrai, ton premier enfant, tu passes trop de temps à l'observer, à le regarder. Limite, il a un poil qui pousse. Tu dis, je ne comprends pas, il a un poil sur l'orteil, sur le genou. Qu'est-ce qui se passe? Tu passes beaucoup de temps à l'observer. Et c'était la découverte. C'était la découverte pour moi en tant que mère. Parce que j'ai toujours été... je me suis beaucoup occupée... j'ai une filleule aujourd'hui qui a 25 ans. Je me suis occupée d'elle dès sa naissance. J'avais 18 ans quand elle est née. Mais c'était pas pareil. Là, je m'occupais de ma fille, quoi. Mmh.
Tu dirais qu'être parent, c'est inné ou ça s'apprend?
Alors, il y a des personnes pour qui être parent, ça va être inné. Et il y a des personnes qui vont l'apprendre sur le tas. Oui, être parent, c'est inné, mais on apprend toujours, en fait. Parce que c'est inné, c'est le sentiment, c'est l'émotion, c'est l'amour qui est inné. Mais l'action d'être parent, c'est pas inné, ça s'apprend.
Ok, ça c'est ton point de vue sur la question. Est-ce que tu nous racontes son premier bobo? Tu t'en souviens?
Alors, le premier bobo de ma fille, c'était pas vraiment un bobo, ouais, c'était pas vraiment... Bon, elle avait peut-être 4-5 mois. C'était son premier épisode d'encombrement.
Ouais, ok.
Voilà.
Comment tu l'as vécu?
Ben, ayant la casquette de soignante, j'étais pas paniquée du tout. Parce que je savais que c'était normal, que c'était des choses qui pouvaient arriver. Mais quand t'es maman, c'est différent. Du coup, j'étais pas à l'aise. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'attends pas. Et non, en fait, j'ai été chez le médecin, tout simplement. Mais sans me poser de questions, j'ai été chez le médecin qui a confirmé ce que je pensais. Voilà, bon, bah, elle a une petite bronchiolite. Et on a dû faire ce qui allait avec, derrière, des séances de kiné. Voilà, pour qu'elle aille mieux. Mais ça m'a pas paniqué parce que je ne l'ai pas vue en danger. Mmh. Vital, on va dire. Mmh, tu vois. Mmh.
18 mois plus tard, c'est la naissance de ton fils. Que tu appelleras comment?
Farrell.
Farrell. Comment se passe la grossesse pour Farrell, sachant que tu as déjà Émeraude, là, pour le coup, donc on dit que chaque grossesse est unique. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Comment tu as appréhendé le fait de passer d'un enfant à deux enfants?
Ben, l'histoire de Farrell, elle était, c'est vrai, différente, parce que chaque grossesse est différente. J'ai passé une bonne grossesse. J'étais pas spécialement malade ni quoi que ce soit. Mon seul regret, ça avait été de pas avoir perdu les plus de 25 kilos que j'avais pris de ma première. Ça, c'était mon seul regret. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Et puis, avec Farrell, j'ai connu une grossesse familiale.
Ouais.
Que je n'avais pas connue avec ma première fille. Donc du coup, on était toujours tous ensemble. Émeraude voyait mon ventre, voilà, pousser de mois en mois. Elle était très contente. Elle était très proche de nous. Et ce qui m'a marquée, quand Farrell est née, quand on l'a ramenée, bon déjà, sa sœur l'a portée tout de suite quand elle est venue voir à la maternité. Donc elle avait à peine 18 mois. Il y avait un petit lien entre les deux, c'était trop marrant. Mais surtout, Émeraude, elle dormait avec nous. Elle dormait avec nous dans la chambre. Le jour où on a ramené son frère, comme une grande fille, elle est partie toute seule dans sa chambre et elle a dormi dans son lit. Et de là, elle a jamais quitté son lit, elle n'est jamais revenue. Par contre, pendant 3 mois, elle se réveillait à chaque fois la nuit pour surveiller que son frère y boive le sein. Donc elle se réveillait, elle l'entendait, elle venait dans la chambre et disait « Maman, c'est l'heure de lui donner le sein ». Je disais oui, elle retournait dans la chambre, elle allait se coucher. Et elle a fait ça très longtemps.
D'accord. Elle se sentait investie d'une responsabilité très jeune.
Oui, 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 elle se sentait investie. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on est, d'être là les uns pour les autres.
Puis arrive l'entrée à l'école, les activités sportives, ta vie de maman engagée. Alors avec Thierry, du coup, comment vous passez les étapes que toi tu identifies comme les étapes clés dans ta parentalité, quelles ont été jusqu'à l'arrivée de ton dernier enfant, mais qui a que 5 ans, donc tu as d'abord eu toute une vie familiale avec tes deux ados aujourd'hui. Comment ça s'est passé?
Alors déjà, il y a eu un premier choix professionnel.
Ok.
Quand j'ai eu la première, j'ai décidé de travailler de nuit parce qu'il était important pour moi d'être présente pour mes enfants. Et mon conjoint, lui, il est chauffeur de bus, donc il a des horaires très variables. Et c'était important, mais vraiment, ça, c'était primordial pour moi, dans ma vie de maman, c'était d'être là. Je concevais pas que mes enfants aillent à l'école le matin sans voir personne et qu'ils reviennent le soir de l'école sans voir personne. Mmh. Et c'est ce qui aurait été le cas si j'avais pris un poste fixe en journée, au vu de ma profession. Je travaillais en 12 heures, donc 7h, 19h, tu vois pas ton enfant le matin, tu le vois à peine le soir. Et pour moi, ça, c'était pas possible. Moi, je voyais vraiment ma vie de mère. Je voulais être inclusive dans la vie de mes enfants.
Ça, c'est ton choix à toi. Et oui. Du coup, Thierry, lui, il le vit comment? Parce que qui dit travail de nuit, dit aussi un bouleversement, un changement dans la vie familiale. Mmh. Parce que du coup, en tant que femme, on est les mères, mais on est aussi les épouses. Et du coup, comment Thierry, il accueille cette nouvelle quand tu lui dis que tu veux passer en travail de nuit?
Ben, quand il y a eu Émeraude, le travail de nuit s'est présenté à moi parce qu'on avait des soucis de personnel. Et du coup, ma canne à l'époque m'avait demandé est-ce que je peux travailler pendant un mois de nuit. Mais à ce moment-là, Thierry et moi, on ne vivait pas ensemble.
D'accord.
Donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, voilà, on me propose de bosser un mois de nuit, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, bon, bah ok, d'accord. Du coup, bah, il venait tous les jours s'occuper de sa fille. Enfin voilà, il s'en occupait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je lui ai demandé, je lui ai dit, bah... Là, il y a peut-être quelque chose qui se libère. Est-ce que toi, ça te dit ou pas que je prenne le poste? Il m'a dit, bah vas-y, prends-le. À l'époque, lui, il avait des horaires où il commençait à 7h du matin, il finissait à 14h.
D'accord.
Et bah du coup, lui, il a pris sa parentalité à bras-le-corps parce que pendant 3 ans, je n'ai jamais été la maman qui s'est préoccupée de savoir comment ma fille allait à la crèche ou pas le matin. Je préparais juste les vêtements. Du coup, pendant 4 ans, puisque Farah est arrivée après, c'est lui qui, tous les jours, a emmené ses enfants à la crèche. J'ai pas connu ça. Il les emmenait tous les matins, il allait les chercher. Donc moi, mes enfants, quand ils rentraient, c'est eux qui me réveillaient.
Trop fort ce que tu me racontes, parce que forcément, quand tu parles, je me dis, on parle souvent de la place des pères comme absents dans l'éducation, et là, en fait, tu viens de nous donner un témoignage tellement riche, parce que du coup, Thierry, ce papa qui n'est pas le père biologique d'Emeraude, prend sa parentalité à bras-le-corps, comme tu l'as dit. Donc, comment ça se passe pour lui avec la petite, le soir, quand tu n'es pas là? Est-ce que tu prépares tout? Est-ce que tu étais la maman qui préparait tout, les repas, les biberons, qui notait tout?
Il se débrouillait tout seul. En vrai, ce lien biologique, oui, ok, c'est quelque chose. Mais je pense que Thierry, il a été papa dès le moment où il a su qu'il voulait être avec une femme qui avait un enfant. Dès ce moment-là, pour lui, il savait qu'il était père. Je ne me suis jamais posé de questions à dire « Ah, non, c'est pas mon papa, ni quoi. » Jamais. Et bon, bah, dans ma famille, forcément, au début, les gens savaient. Mais... jamais, nous, en fait, j'y ai jamais pensé. Mmh. Et souvent, nous, ça nous faisait un peu rire parfois parce que les gens nous disaient « Oh là là, mais comment elle lui ressemble !» et tout. Et nous, des fois, on se regardait, on se faisait un petit signe de yeux parce qu'on savait.
Ouais, mais tu sais, c'est pas impossible. Hein.
Mais
fois, non, mais quand des fois, on traîne beaucoup avec une personne, on finit par lui ressembler dans les mimiques, dans les attitudes.
Exactement.
Donc, c'est fou.
Donc, du coup, nous, ça nous faisait beaucoup rire. Et on n'y a jamais... franchement, on n'y pensait pas. J'y pensais pas, en fait. Pour moi, c'était son père. La question, elle se posait pas. Il assumait tous les rôles du père. Enfin, quand elle était malade, c'était lui qui se levait pour aller l'emmener chez les médecins. Enfin, si j'étais pas là, que j'étais au boulot, il m'appelait. Non, il a été... je pense qu'il savait ce qu'il voulait.
Mmh. Est-ce que tu as un exemple d'une fois où vous avez dû faire face à une réelle prise de position J'avais un slogan à l'époque pendant le Covid qui était « On ne peut pas être parent sans prendre position ». Est-ce que tu as un exemple en tête d'une prise de position forte ?
Je pense que ça a été avec sa première prise de position en tant que parent. Ouais, je pense que ça a été envers ses parents, envers sa mère en fait. Quand il a décidé... qu'il était père et que on n'avait plus de leçons en tout cas à lui donner parce que c'était lui aujourd'hui qui allait être l'homme de son foyer. Et je pense que c'est à ce moment-là.
Et toi ?
Ma prise de position à moi ?
Ouais, en tant que maman, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un conflit à l'école, ça peut être, je sais pas, un choix que tu as. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du choix de laisser tes enfants libres de choisir leur religion. C'est une prise de position. Mais est-ce que tu as un exemple de prise de position où tu as dû affirmer ou sécuriser, rassurer, protéger un de tes enfants ?
J'ai mon fils. Je vais pas dire que. En fait, ce serait pas un exemple, ce serait peut-être plusieurs.
Ouais, vas-y.
En vrai. Et. C'est dans l'éducation.
Ok.
Parce qu'en fait, quand on commence à mettre nos enfants en société, que ce soit à la crèche ou à l'école, tu vois, on est face à une théorie de pratique de la vie de parent. Voilà, on est face à ça. Et chez nous, du coup, on voyait pas trop les choses pareilles. Donc, c'est vrai qu'avec Thierry, en fait, on s'est posé, on se posait souvent, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on voulait pour les enfants ? Et là, en fait, ouais, ça a commencé cette réflexion en disant, non, en fait, nous, notre ligne de conduite, c'est ça, voilà, c'est d'être comme ça. Alors, il faut composer avec l'extérieur, c'est pas toujours évident, mais on y arrive.
Et comment... Alors, du coup, tu parles d'une vision, de valeur, de transmission un peu. C'est quoi concrètement dans la réalité aujourd'hui avec les enfants ? Comment ça se passe ? Quels parents vous êtes, en fait ?
Alors, la prise de position... Alors, souvent, les gens font un tabou autour de... tu sais, les hommes qui s'occupent de leurs filles, surtout. Et c'est vrai qu'au début, on me demandait comment ça se passait, ces moments-là. Et moi, je trouvais cette question un peu bizarre, parce que, déjà, mon père, il s'était occupé de moi, tu vois, quand j'étais petite et tout. Et je disais, mais je comprends pas le délire des gens, en fait. Et il y en a beaucoup pour qui ils se disaient, ouais, mais c'est... En fait, il s'occupait beaucoup d'Émeraude, il lui faisait la toilette, comme n'importe quel papa, tout ça. Et les gens me disaient, ouais, mais tu vas laisser... Ouais, ma première prise de position, ça a été ça. Au travail, en fait, j'ai eu des collègues qui me disaient, mais vous êtes un jeune couple. Pourquoi est-ce que tu veux venir travailler la nuit ? Tu te rends pas compte ? Ton mari va rester tout seul ? Tatati, tatata. Et quand elles m'ont dit ça, alors moi j'avais quoi, 29 ans, fraîchement accouchée, je rentre, je dis à Thierry, je dis, ouais, tu sais pas ce qu'elles m'ont dit aujourd'hui, les collègues au taf et tout. Il me dit quoi ? Je dis, ouais, elles me disent que moi je vais aller travailler le soir, toi tu vas être là, qu'est-ce que tu vas faire ? Déjà, il a commencé à me regarder quand j'ai dit ça. Et moi, j'ai répondu à mes collègues tout simplement que il n'y a rien que mon mari il fasse la nuit qu'il ne puisse pas faire la journée. Donc ça ne m'inquiète pas. Elle me dit, ouais, mais ta fille et tout. Je lui ai dit, ouais, mais en fait, c'est un père. Je lui ai dit, mais c'est comme une mère quand elle est seule avec ses enfants, on ne se pose pas de questions. Pourquoi on se poserait des questions ? Parce que c'est un homme, c'est autant son enfant que le mien, quoi.
En fait, il y avait un sujet d'ailleurs qui est d'actualité, hein, sur l'inceste, comment il prend place dans les familles et comment, quelque part, est-ce que tu dirais pas que au début tu reçois ça comme quelque chose de bizarre parce que tellement c'est impensable et même pas dans ton cheminement de pensée et pourtant ça existe. Donc est-ce que c'est pas un signal d'alerte en disant est-ce que quelque part elle a pas fait germer dans ta tête ce truc de what? Parce que quand tu rentres et que t'en parles à Thierry, t'attends quand même qu'il t'observe sa réaction.
Franchement, nous, on a rigolé parce que vraiment, c'était impensable. Et c'est quelque chose d'impensable pour moi. Et quand je le voyais s'occuper de sa fille, franchement, je me disais juste, c'est impossible. Et même si quelque chose aurait pu se faire, je me dis qu'on aurait été vigilante. En tant que mère, on a toujours un instinct. On a toujours un doute. On va même pas parler du père, hein. Ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, ça peut être n'importe qui. En fait, tout homme extérieur à, voilà, on va dire à son noyau dur, ça, voilà, c'est possible. Mais c'est quelque chose, moi, qui m'a jamais effleuré l'esprit, franchement.
Ouais. Et alors là, on se détache deux petites secondes pour tous les auditeurs qui nous écoutent. On sait que cette question d'inceste, elle est importante et que les gens ont du mal à sortir du silence. Et que certains culpabilisent de ne pas avoir vu. Il n'y a pas de science exacte. Et certaines auront l'instinct, d'autres pas. Certaines le voient pas. Et là, c'est vraiment un témoignage. On n'est pas en train de juger ou de porter une atteinte aux victimes ou aux familles qui... voilà, c'est important de le dire parce que ça peut se faire avec les hommes en dehors de la famille, mais exactement, ça se fait aussi au sein des familles. Donc la parole commence à se libérer et on l'encourage. Mais on va continuer sur toi, Isabelle. Et du coup, je me dis, est-ce que tu as un exemple, tu as deux ados aujourd'hui, comment ça se passe dans les confrontations, dans les désaccords? On sait que des fois, les ados, ils peuvent...
Oh, c'est Bagdad. Ils peuvent pas passer à 30 cm l'un de l'autre, mais quand ils sont pas ensemble, du coup, ils se cherchent.
Ok.
Mais franchement, ils arrivent à se compléter. Ils arrivent à trouver de l'entente. De toute façon, je leur dis, s'ils trouvent pas de solution, chacun dans sa chambre.
Ok. Et on arrive presque à la fin de cet entretien. Il y a plein de choses à dire. Dans les moments de désaccord avec Thierry, comment vous rectifiez le tir? Est-ce que vous arrivez à rectifier le tir?
Oui. Oui, parce qu'on fait un point tout de suite, on laisse rien s'envenimer. Par contre, on est très dans le dialogue par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on parle la même langue pour que nos enfants ils puissent comprendre. Donc, c'est où on les prend tous ensemble. Nous, on fait souvent des conseils de famille. C'est un truc qui existe chez nous depuis que nos enfants sont dans l'âge de s'exprimer. Une fois par mois, on fait un conseil de famille et les enfants, ils ont le droit de s'exprimer en disant tout ce qu'ils veulent, même si on a fait quelque chose de pas mal et il n'y a pas de conséquences à ça. Donc, on rectifie à ces moments-là. Et si c'est entre nous, parce que entre parents, parfois ça arrive aussi qu'on ne se comprenne pas. Lui, il a dit son idée comme ça là et on n'était pas ensemble sur le moment T. Le soir, en fait, c'est fait pour ça, quoi. Quand on est couché, en général, on refait des points. Voilà, s'il y a un truc qui m'a pas plu, je lui dis, ouais, par contre, voilà, ça m'a saoulé. J'aurais préféré que tu agisses comme ça. Ou lui, des fois, il peut me dire, oui, mais toi aussi, t'es trop comme ça. Donc, ouais, c'est ces moments d'intimité le soir où on est tous les deux, où on peut échanger là-dessus.
Quelles sont les plus grosses difficultés que tu identifies aujourd'hui en tant que parent et que tu as envie de partager?
La grosse difficulté quand on est parent, c'est qu'il faut toujours se renouveler. Il n'y a rien d'acquis quand on est parent. Rien d'acquis. Là, tout à l'heure, on a parlé de l'inceste. Il y a plein de sujets, il n'y a rien d'acquis. On peut passer à côté de n'importe quoi, même en étant le meilleur communicant possible. Et ça, c'est à ne pas négliger. Et vraiment, c'est pour ça que j'aimerais dire à tous les parents que... l'erreur, le fait de ne pas voir, ça arrive à tout le monde, mais c'est parce qu'avant d'être des parents, on est des humains. Donc c'est normal parfois de louper des choses. Et il y a aussi des choses parfois qu'on ne connaît pas. Moi, mon grand regret dans la société aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas d'école pour être parent, qu'on te dise la vérité sur le job de parent. J'aurais aimé qu'il y ait des institutions qui t'apprennent à être parent, c'est-à-dire qui accueillent des enfants. Et quand tu es jeune fille, jeune femme ou femme plus âgée ayant des enfants, il y a plein de questions pour qu'elle puisse se rendre dans ces maisons maternelles et voir comment ça se passe, ne serait-ce que la mise au sein, quand il va à l'école, comment il faut gérer la lecture, comment il faut gérer l'entrée au collège. Ça, c'est des choses en fait avant la maternité. À partir du moment où tu penses à être maman, faut aller dans des endroits comme ça où faut aller voir des sœurs, des tantes et leur demander ta maternité à toi c'était quoi, ta parentalité à toi c'était quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne disent pas et ce qu'ils disent pas c'est ce qu'on vit.
Pour le mot de la fin, Isabelle, est-ce que tu es fière de ce que tu as construit dans ta parentalité? Est-ce que tu es fière de toi? Est-ce que tu es fière de Thierry?
Aujourd'hui, oui, je suis fière de ma famille, je suis fière de mon couple, mais je suis surtout fière de nous parce que je suis une mère au-delà de ce que j'aurais pu projeter. Et ça, c'est ce que j'aime.
Franchement, je vais pas en rajouter juste parce que là, la phrase que tu as dite, c'est vraiment sur ça qu'il faut rester. Je te remercie. J'invite tout le monde à écouter cet échange et peut-être, tu as des réseaux, je crois. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions à te poser?
Alors, si vous avez des questions à me poser au niveau de votre santé, ben, sur Mimi Prime, sur Instagram. Et tout ce qui est de la féminité sans tabou, la parentalité également, vous pouvez me retrouver sur Quand les femmes. Et d'ailleurs, on a un live sur l'inceste et les conséquences demain. Donc, je vous invite à l'écouter.
Eh ben, c'était Raconte ta parentalité, la première émission qui permet de parler sans tabou de la parentalité. Moi, j'ai plus de thé. Je ne sais pas dans ta tasse, mais du coup, je vais aller me servir. Allez, ciao.
Merci.